Studio Tamani, voici les informations en français.
Et c'est avec Amsé Toutouré à la présentation et Mamadi Keïta à la mise en onde. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Voici les titres. Le ministre de l'administration territoriale a annoncé ce matin le report des élections présidentielles prévues en février 2024 à une date ultérieure. Il les justifie par des raisons techniques. Le Mali a rejoint vendredi dernier le groupe des Amis pour la défense de la charte de l'ONU. Des chercheurs soulignent que c'est un bon signe pour le Mali. Dans le cadre de la Semaine nationale de la réconciliation, une rencontre sur l'apport des opérateurs économiques dans les difficultés que vit le Mali a eu lieu jeudi dernier. Les participants ont prôné le dialogue entre les Maliens. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer. Je viens de le dire tantôt dans les titres, le gouvernement vient de reporter l'élection présidentielle prévue en février 2024 à une date ultérieure. Il justifie ce report par plusieurs facteurs, notamment la prise en otage de la base de données du recensement administratif à vocation d'état civil RAVEC par une société française. L'annonce a été faite ce 25 septembre par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, Jiadata Maïga.
Les dates initialement retenues du 4 et du 18 février 2024 pour les deux tours de la présidentielle connaîtront un léger report pour des raisons techniques, selon le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement. Il s'agit notamment de l'augmentation du délai entre les deux tours des élections, la prise en compte des résultats de la révision annuelle des listes électorales à partir de janvier 2024, mais aussi la prise en otage de la base de données du recensement administratif à vocation d'état civil RAVEC par IDEMIA, une société française. Le gouvernement de regretter ce blocage qui provoque de lourdes conséquences sur le processus électoral. Il s'agit notamment de l'impossibilité d'enrôler les nouveaux majeurs et de les inscrire sur le fichier électoral, ou encore du ralentissement de la confection de la carte nationale biométrique. À noter que le gouvernement a décidé d'organiser exclusivement l'élection présidentielle pour sortir de la transition.
Ces raisons évoquées par le gouvernement ne sont pas suffisantes pour reporter ce scrutin. Cette déclaration a été faite par le président de l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali. Ibrahima Sango déplore également cette annonce faite par le gouvernement. Selon lui, cette mission incombe à l'EJ, autorité indépendante de gestion des élections. Il est joint au téléphone par Moussa Malé Sissoko.
C'est l'EJ qui est chargé de la gestion des élections en République du Mali. Ce n'est pas le ministère de l'administration électorale. Maintenant, dans le fond, ce qu'on constate, c'est que pour nous, ce n'est pas des raisons valables. Ça fait 3 ans que la transition a cours au Mali. Et si aujourd'hui, le gouvernement dit qu'on ne peut pas tenir les élections en février 2024, alors que le référendum a été tenu sur la base d'un fichier électoral, et cela pose des questions. Ce n'est pas une raison suffisante parce que 5 milliards, et le gouvernement de la République du Mali peut débloquer 5 milliards pour avoir la base de données de la vérité. Ce n'est pas la mer à boire, à notre avis. Les 6 grandes élections qui avaient été annoncées par le gouvernement étaient irréalistes, irréalisables en République du Mali. À notre avis, on peut organiser l'élection présidentielle et les élections législatives pour mettre fin à la transition.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook, notre compte Twitter. Autre actualité du jour, le Parrainat invite les Maliens à mettre de côté leurs divergences et à s'unir pour lutter contre le terrorisme. Dans un mémorandum, il prône une initiative intermalienne de dialogue et de paix, incluant les djihadistes maliens. Le parti demande à la médiation internationale de reprendre des initiatives pour renouer le dialogue entre les parties maliennes. Il exhorte les autorités à réunir les forces vives pour restaurer la stabilité. Le Mali a intégré le vendredi dernier le groupe des Amis pour la défense de la charte de l'ONU, regroupant une vingtaine de pays dont l'Algérie, l'Angola et la Chine. Le but est de défendre les idéaux de la charte des Nations Unies, notamment la non-ingérence dans les affaires intérieures de l'État, le règlement pacifique des différends et l'interdiction de recours à la force armée entre États. Quel est l'avantage de l'intégration du Mali à ce groupe? La réponse réponse avec Dr N'Golo Diarra, chercheur indépendant en relations internationales. Il est joint par Lala Aïcha Walet Infa.
C'est une manière de montrer que le Mali, il n'y a pas de rupture entre le Mali et l'organisation. Effectivement, le pays a demandé le départ de l'aménagement qui n'est pas conforme aux réalités du terrain. Sinon, le pays est prêt à coopérer avec l'Organisation des Nations Unies. Au-delà de ça, il y a un message très important pour montrer que les Nations Unies ont si loin de ses idées et que l'organisation n'était pas là pour la défense effectivement des questions sécuritaires au Mali. Et une autre manière, c'est de montrer que le Mali n'est pas isolé. Le Mali n'est pas isolé. Le Mali est avec les autres États et ces autres États sont en train de défendre les valeurs universelles des Nations Unies.
Rôle des opérateurs économiques dans le renforcement de la résilience des populations. C'est le thème d'une conférence débat initiée jeudi dernier par la Chambre de commerce. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre de la Semaine nationale de la réconciliation, CENAR. L'objectif est de dévoiler l'apport des opérateurs économiques dans les difficultés que vit le Mali. Un reportage de Moussa Ag Mahaha.
Dita Dem est la vice-présidente de la Chambre de commerce. Elle explique que la crise a beaucoup impacté leur secteur, mais ils sont restés résilients, ajoute-t-elle.
Malgré toutes ces difficultés et la situation spécifique de notre pays, les charges fiscales et les multiples charges des employés, les opérateurs économiques maliens n'ont pas cessé un seul instant les activités professionnelles afin d'assurer l'approvisionnement du pays.
Les Maliens doivent se donner la main plus que jamais pour relever les défis. Indique le colonel-major Ismaël Wagui, ministre de la Réconciliation. Il lance un appel à tous les groupes armés à revenir à la table de négociation pour le retour définitif de la paix.
À l'occasion du 21 septembre, journée internationale de la paix, je voudrais lancer un appel présent à tous les protagonistes des conflits latents à mettre le Mali dessus de tout et faire du vivre ensemble une réalité. C'est à cela qu'ils revendiqueront légitimement leur part de contribution à la paix et à la cohésion sociale.
Il faut rappeler que des recommandations ont été faites afin que les Maliens puissent avoir les produits de première nécessité moins chers.
L'insécurité ne faiblit pas dans le cercle d'Ansongo. Le chef de village de Tassiga, dans la commune de Boura, a été enlevé hier dans la foire de Tassiga, à 35 km d'Ansongo. Selon les habitants, il a été enlevé par des hommes armés non identifiés pour une destination inconnue. C'est la rubrique Vérifions et aujourd'hui nous allons vous parler de deepfake. Appelé en français un trucage hyper réaliste, ces contenus trompent plus d'un. Draman Maïga.
Un deepfake est une technique d'intelligence artificielle. Il permet de créer ou de modifier des contenus vidéo et audio. Cette intelligence artificielle permet de manière réaliste à remplacer le visage d'une personne par celui d'une autre. Créer un journal avec un présentateur ou une présentatrice réelle, produire la voix d'une personne, entre autres. Plusieurs sites et applications existent de nos jours pour créer des deepfakes. Selon les experts, les deepfakes sont souvent utilisés à des fins de divertissement, comme créer des vidéos humoristiques ou des parodies. Mais de nos jours, certains utilisateurs ont d'autres objectifs, comme tromper l'opinion publique ou encore nuire à une personnalité en liant son image ou sa voix à un montage audiovisuel. Pour y faire face, des sites et des réseaux d'experts ont été mis en place. Objectif : démasquer les montages et aider les internautes à démêler les deepfakes et des vrais contenus audiovisuels. Parmi ces sites, Deepfake Video Reddit et Deepfake Lab, l'utilisation de ces outils de vérification fera l'objet d'une de nos réalisations sur votre rubrique « Vérifions ». En attendant, n'hésitez pas à consulter nos autres sujets traités sur notre site www.studiotamani.org.
Dans notre Zoom sur d'aujourd'hui, nous nous intéressons aux personnes qui ne veulent pas vieillir. Ces personnes veulent toujours paraître jeunes et refusent même d'être appelées tonton ou tanti. Oumar Waïgalo.
Nous connaissons tous au moins un individu qui ne veut pas vieillir. Ces personnes aiment maintenir leur jeunesse, peu importe les prix à payer. À 50 ans, Mohamed a l'allure d'un jeune garçon de 30 ans. Des chapeaux cow-boys, la tête bien coiffée et la barbe rasée. Chaque jour, il entretient ce CV avec une pommade pour que les CV blancs n'apparaissent pas. Mohamed est toujours propre et bien habillé à la mode. Il connaît les langages des jeunes et aime s'entourer d'eux. C'est le même cas chez Oumou. Dès sa grand-mère, elle a l'air jeune plus que sa fille. Toujours élégante, des faux cils, des faux ongles, des chaussures de classe et une tenue de classe. Elle est l'amie de ses enfants et même ses petits-enfants. Oumou connaît tout ce qui est à la mode chez les jeunes filles. Oumou, comme Mohamed, n'aime pas être appelée tante ou tonton. Pour eux, ces appellations rendent vieille et rapprochent de la mort.
À présent, nous retrouvons Mariam Maïga pour nous introduire le Grand Dialogue. Bonsoir Mariam.
Bonsoir Hamsetou.
Alors, quel thème sera abordé dans le Grand Dialogue de ce soir ?
L'actualité oblige, nous allons parler du report de la présidentielle de février 2024. Et pour en parler, nous avons deux invités, Hamadou Ngariko de Fusi Mali, Front uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali, un mouvement de soutien à la transition, Dr Ibrahima Sango de Modèle Mali, mission d'observation des élections au Mali.
C'est noté, Mariam. Retrouvez ce journal ainsi que toutes les productions de Studio Tamani via l'application Studio Tamani. Vous pouvez télécharger cette application sur Play Store. C'est la fin de cette édition. Dans un instant, le magazine Malikoura.
Dengue est diagnostiqué. Le ministère de la Santé et du Développement social recommande d'adopter les mesures de protection pour empêcher la maladie de se propager au Mali.
La dengue n'est pas à prendre à la légère. Elle se caractérise par une fièvre avec des maux de tête, des douleurs aux articulations et peut entraîner des vomissements de sang. Vous avez une sensation de grande fatigue et des boutons sur la peau.
La dengue se transmet par les piqûres de moustiques. Pour se protéger de la dengue, des gestes simples.
Couvrez les fûts et réserves d'eau.
Dormez sous une moustiquaire.
Éliminez les déchets inutiles dans et autour de la maison.
Protégez-vous des piqûres de moustiques en portant des habits longs qui couvrent tout le corps.
Détruisez les gîtes lavaires, eau stagnante, désherbage, vidange, des ordures, etc.
Vous pouvez aussi utiliser les répulsifs, crème, spray, lotion anti-moustique, mais pas chez les petits enfants et pas sur le visage.
Et n'oubliez pas que la moustiquaire est le moyen prioritaire de protection pour les enfants.
Ceci est un message des Studios Tamani
en partenariat avec le ministère de la Santé et du Développement social.
La deuxième édition de la Semaine nationale de la réconciliation a été clôturée jeudi dernier, 21 septembre. Pendant une semaine, des échanges autour d'une paix inclusive et durable au Mali ont eu lieu partout dans le pays. Les participants estiment également que le bilan est rassurant. Une série d'activités a marqué la semaine, notamment les causeries débats, la culture et le sport. Le magazine Malikoura fait un cap sur le bilan de la CNR. Il est réalisé et présenté par Fatoumata Kodio avec le concours de nos correspondants.
Sidi Mohamed El Béchir, gouverneur de la région de Badjangara, est satisfait du bilan de la CNR dans sa localité. Il note des fortes recommandations formulées et la participation massive des acteurs impliqués pour la paix et le vivre ensemble.
De franchir un grand pas vers la stabilité et la pacification définitive de notre région. Les recommandations formulées afin de donner un nouveau souffle dans le processus de réconciliation de notre région. Les différentes interventions, les débats, interactive. Et les bénédictions et prières dans les lieux de culte ont notamment mis en évidence que des réels engagements de part et d'autre de l'ensemble des parties prenantes à la crise sécuritaire à aller de l'avant pour la quête de la paix.
Les femmes de Kolondjeba ont participé à cette semaine pour l'amour de la patrie, affirme la CAFO de la localité. Madame Awasila, vice-présidente, exhorte les femmes et les jeunes à aider les militaires pour lutter contre le terrorisme.
Cette année, nous avons fait des bénédictions et des concertations avec les femmes et les jeunes pour le retour de la paix au Mali. Nous avons exhorté la population à soutenir les forces de défense et de sécurité. Il faut informer les militaires face à des situations suspectes. Depuis 30 ans, le Mali n'avait pas connu un tel engagement des militaires.
matière.
La CENAR, c'est aussi l'affaire des jeunes. Selon le Conseil local de la jeunesse de Kaï, les recommandations de l'année passée ont été réalisées. Adama Sangaré, président du Conseil local de Kaï.
L'année passée, il y avait des recommandations d'élargir la commission. Et cette commission a été élargie. Vous voulez des 6 personnes, 7 personnes. Maintenant, on est à 11 personnes. Orienter la population et de s'asseoir et discuter, de ne pas aller au tribunal pour aller gérer des problèmes.
Beaucoup d'activités ont également été menées avec les différentes couches de la société à Gao, nous confie Oumar Kone, assistant de l'équipe régionale d'appui à la réconciliation de Gao.
Il y a la paix inclusive et durable, ça c'est pour les religieux qui l'ont fait de cela, le thème de leur serment dans les mosquées et également dans les églises chrétiennes. Les jeunes ont eu une cause de débat sur les jeunes acteurs de changement pour une paix durable. Alors avec les légitimes traditionnels, ils sont également épanchés sur le mécanisme traditionnel de prévention et gestion de conflits. Les femmes également ont donné leur point de vue sur le rôle des femmes dans le processus de paix. Pour cette année, il y a des recommandations qui ont été formulées. D'abord, les jeunes ont estimé qu'ils ne sont pas suffisamment impliqués dans le processus de paix.
Le ministère de la Réconciliation nationale a créé des équipes régionales d'appui à la réconciliation dans toutes les régions. Ces structures sont chargées de concilier les communautés en cas de conflit. Yacouba Panama Dambélé, membre de la Commission nationale d'organisation.
S'il y a un problème entre deux individus ou bien deux familles, vous trouvez que c'est les membres de CCR là qui se déplacent pour éteindre ce feu et faire un rapport pour déposer ce rapport-là au niveau de l'ERAR. L'ERAR achemine ce même rapport-là au niveau de la MAR, parachève au niveau du cabinet du ministère de la Réconciliation. Si nous prenons du 1er janvier au 15 septembre 2023, nous avons fait le déplacement partout au Mali, je trouve que le bilan est positif.
Le thème choisi cette année était « Ensemble, engageons-nous pour relever les défis d'une paix inclusive et durable au Mali ». Aujourd'hui, les Maliens se disent convaincus que le pays a besoin de ses filles et fils pour restaurer les vivre ensemble.